on est allé se mettre dans une remise, hein, on était une vingtaine. Eh bien, attendre que ça se passe, mais je vous avoue franchement qu'à certains moments, là, j'ai cru que ma dernière heure est arrivée parce que façon dont ça mitraillait, enfin, ça tirait de toutes parts. Je vais repenser un petit peu à ce que les gens ont pu subir au Bataclan. Là, oui, honnêtement, à ce moment-là, il y avait un petit film qui passait dans ma tête.
Il tirait de gauche à droite, de gauche à droite, sans même réfléchir.
Sur la plage d'abord. Sur la plage d'abord, et puis ils sont rentrés dans les hôtels. Si. À la paillasse, ils ont tué des gens.
Des calaches.
On est venu pour l'anniversaire d'un ami du quartier et on était contents. Et tout à coup, on a entendu des tirs. Puis après, vraiment, on a commencé à voir les gens tomber, les morts, ça tire partout.
Vous avez vu qui a tiré?
Moi, je n'ai pas vu. Mais elle était avec, on nous a mis dans une chambre. Il y a une fille qui était dans la chambre qui a dit que, parce qu'elle courait avec son chéri. Elle courait avec son chéri et la balle a pris sur la tête de son chéri. Maintenant, elle est en train de le bousculer pour qu'il s'élève. Et puis les gens sont venus l'apprendre qu'elle n'a qu'à quitter là, que c'est dangereux, qu'il est déjà mort. Il n'y a jamais eu peur comme ça. Jamais.
Ce dimanche 13 mars 2016, ce n'est pas seulement cette jeune Ivoirienne qui a eu peur, mais tout le pays. Une Côte d'Ivoire qui, à 12h45, sur la plage d'ordinaire si animée de Grand Bassam, voit surgir trois terroristes armés de kalachnikov et de grenades. Deux remontent vers l'est de la plage, un autre va vers l'ouest et tire sur tout ce qui bouge. À l'époque, deux amis du maquis le Djalive sont les premiers à voir les terroristes passer devant eux par un petit chemin de terre menant à la plage.
Deux individus armés ont débarqué à pied. Ils ont fait le feu sur ce jeune homme qui est couché là. Voilà.
Vous les avez vus?
Oui, je les ai vus de mes yeux. J'étais arrêté là. Sans rien dire, ils ont fait le feu. Il y avait un autre qui était de l'autre côté là, qui a pensé à tirer aussi. Donc il y a eu la panique, oui.
Vous êtes caché? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas tiré dessus?
Voilà. Donc je me suis dit que c'est la police qui cherche des individus précises. Donc nous sommes entrés, on s'est enfermés dans le coin. C'est comme ça.
Quand il a tué le gars... Et puis après, il a braqué sur mon frère. Et puis après, il a vu que c'est un rasta. Il a laissé, il a couru, il est rentré. Il a tiré sur la femme qui vend l'eau là.
Sous l'arbre là, il y a de l'eau. Les paquets d'eau sont là. Il y avait une femme qui était assise, il a tiré dans ses pieds.
Il a tiré. Après, quand il y a eu des coups de feu, on a entendu Allahu Akbar au moins trois fois. Hein.
Et ils étaient visage découvert ou cagoulé?
À visage découvert. Cheveux courts, rasés de près même. Rasés carrément, sans barbe, sans cheveux.
5 heures après l'intervention rapide des forces armées ivoiriennes qui perdront 3 hommes dans les combats, le président Alassane Ouattara se rend sur place.
Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et on menait des combats difficiles. À l'heure où je parle, le calme est revenu à Grand Bassam, et je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan, et sur l'ensemble du territoire ivoirien.
Parmi ceux qui ont échappé aux balles terroristes à l'époque, il y a Youssouf Ouedraogo. Il est le responsable du centre artisanal de Grand Bassam et présent sur la plage au moment de l'attaque. Il nous décrit, un an après, ce qu'il a vu à la Nouvelle Payotte, l'un des hôtels-restaurants où les terroristes ont attaqué.
Voilà, j'étais exactement dans ce bungalow-là. Voilà, cette année, on était avec des amis français, et quand la scène s'est passée, et ils étaient un peu plus loin et nous on était là. Donc on sortait, on le regardait, on revenait. Bon, on pensait que c'était des petits voyous ou bien des gens poursuivis par la police et tout ça. Ils ont commencé à avancer vers nous, donc quand ils avancent par le crépitement des balles, quand ça s'approche de nous, on sait qu'ils viennent vers nous. Les gens ont commencé à déserter la plage, à fuir de gauche à droite. C'était un peu la panique. Et moi, mes amis se sont réfugiés dans la paillotte que vous voyez là, tout juste, ils étaient couchés. Mais en ce moment-là, je n'ai pas eu le temps d'informer mon ami qui était là. Mais il m'a dit que quand il a entendu, il est sorti là, il était là et il les a vus. Et il est militaire. Tout de suite, il a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a donné l'alerte, mais les gens n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Et ils sont venus ici. Ils sont allés, on va voir tout à l'heure l'autre côté là-bas. Il y a un qui est resté là-bas, il y a un qui est resté ici. Parce que d'ici, on voyait l'arrivée des forces de l'ordre. Donc c'est ici, l'autre était, et c'est ici qu'il a été abattu par les forces spéciales. Le deuxième a été abattu au deuxième cocotier qui est calé là. Et c'est lui qui a abattu aussi à la piscine, un Français, le nageur. Voilà, parce que lui, il s'est caché, mais c'est une douche pour la piscine, donc on ne peut pas très bien se cacher, quoi.
Donc, c'est pas fermé, quoi.
Voilà, c'est pas fermé, c'est ça. Donc, il a passé, quand il l'a vu, il a abattu. Bon, il y avait quelqu'un aussi qui était avec son enfant, il a tiré aussi. L'enfant a pris balle, et puis, malheureusement, qu'ils se sont sortis. Et là, lui, il a été abattu, là, par les forces spéciales, en bas de ce cocotier. Voilà.
Youssouf entraîne ses compagnons à l'abri en ville, dans son centre, et au même moment, Patrick, le propriétaire de la nouvelle paillote, comprenant que le danger approche, chasse tous ses clients.
On a entendu des tirs qui étaient un peu cachés par le bruit de la mer, les vagues étaient un peu fortes. On a bien entendu les tirs, on s'est aperçu que tout le monde se sauvait sur la plage, donc on a pris conscience rapidement qu'il y avait un problème. Et je suis venu, j'ai crié « De terroristes, sauvez-vous !» Donc j'ai fait partir tout le monde. J'avais 117 clients ce jour-là, tout le monde, personne n'a payé, tout le monde s'est sauvé. C'était la priorité, que les gens partent. Quand j'ai crié, j'ai tout de suite fermé les portes, la grande salle, fermé le bar. J'ai dit aux gens de partir, les gens étaient au bar pour vouloir payer. La caissière, elle n'avait même pas le temps de s'occuper de tout le monde. J'ai dit « Partez, 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 il faut partir !» Donc les gens sont partis, ont laissé leurs serviettes, leurs sacs sur les tables. Moi, je suis rentré dans le bar. On a fermé les portes et là j'ai vu plein de gens cachés qui étaient couchés par terre. Donc je les ai mis derrière le bar, je les ai mis partout où ils pouvaient. Et puis j'étais avec un ami français et on est allé vers la cuisine. J'ai vu que la porte était restée ouverte au fond de la cuisine. Donc je suis venu là et j'ai vu des femmes. Il y avait deux femmes de l'ONU, une femme libanaise avec ses deux enfants. Et moi je me suis mis à la porte avec mon ami Jean-Luc. Et là je vois la tête du deuxième terroriste, vraiment à 5 mètres de nous. J'ai vu son arme qui est montée et un feu. Le feu et le bruit. Quoi. Il a lancé une rafale de 10-15 cartouches. Il a tiré un peu longuement. Et là, tout le monde est tombé par terre. Mon ami Jean-Luc a commencé à crier. Il m'a dit « J'ai pris quelque chose dans le cul, j'ai pris quelque chose dans le cul. » Il a pris une balle dans la fesse. Moi, j'ai cru que le gars allait refaire le tour pour venir en face de nous. On s'est mis un peu à l'écart. On a attendu quelques secondes. Et puis, je demande au cuisinier « Il est où ?» Il me dit « Non, il part à la piscine. » Et là, on entend tirer à la piscine. Donc, tout de suite, je me suis jeté sur les blessés. Parce que s'ils se mettaient en face de nous par la porte grillagée, là, ils tiraient, ils nous allumaient tous dans le couloir. Et ils tiraient encore sur ceux, les blessés, mais tous les autres qui étaient derrière.
Eux, ils vous ont paru comment déterminés ? Est-ce qu'ils lançaient des slogans ? Est-ce qu'ils criaient contre les gens ? Rien ?
À aucun moment, j'ai entendu leur voix. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit. Ils sont venus à 3 mètres de moi boire la bouteille d'eau qui était sur la table. Ils se sont regardés. Ils ont regardé à travers les vitres. Ils ont regardé partout. J'ai même pas entendu leur voix.
Ils n'ont pas échangé entre eux, quoi.
Rien. Ils se suivaient. Il y avait un leader, un second. Le premier avançait, le deuxième suivait. J'ai vu, c'était comme ça. Ouais, mécanique. Et puis, drogués. Moi, je les ai vus là. Et après, j'ai vu les cadavres quand ils ont été tués. Des yeux globuleux. Il y en a un qui avait des yeux tout injectés de sang. Alors, il y a la mort, bien sûr, mais en dehors du fait de la mort. Moi, j'ai vu des morts. Je suis ancien militaire. Des morts, j'en ai vu plein. Non, c'est des mecs qui avaient été drogués. Voilà, des robots, mission, tel point... C'est comme ça que je le vois. Quoi.
C'est ici qu'ils ont été neutralisés, comme on dit, dans le langage militaire ?
Oui, oui. Je pense que dans leur tête, ils sont venus pour se faire tuer ici, puisqu'ils ne sont pas partis. Ils auraient pu passer le mur de la piscine et partir plus loin. Ils ont fait 3-4 va-et-vient, et puis après, ils sont revenus à droite, parce que c'est là qu'est l'axe d'arrivée de la paillote. Ils ont tiré une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et puis à un moment donné, les commandos sont montés à l'assaut, ils les attendaient. Je pense qu'ils savaient que ça allait se finir ici. Quoi.
À Bassam, que ce soit chez les artisans qui tissent des pagnes ou peignent des poteries pour les touristes ou bien chez les hôteliers, l'activité qui n'était pas toujours florissante a lourdement chuté dans les premiers mois qui ont suivi l'attentat.
On a souffert, ça il ne faut pas le cacher, il faut être direct. On a souffert pendant des mois, même jusqu'à présent, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que bon, Bassam, c'est la fin, ben bon. Donc il y a encore des gens qui pensent. Nous, on veut les rassurer pour dire qu'effectivement, on a souffert, mais progressivement, les choses sont en train d'être mises en place pour que ces choses-là aillent vite. On a souffert, ça, il ne faut pas le nier. On souffre, on continue de souffrir. On compte de souffrir puisqu'on n'avait plus rien. Si vous voyez que l'État a intervenu en donnant quelque chose à boire, c'est parce que l'État savait que vraiment c'était la catastrophe. Les hôteliers, tout ça, c'était vraiment le chaos. Quoi.
Ça a duré combien de temps ? La période la plus dure, ça a duré quoi ? Quelques semaines, quelques mois ?
Oui, des mois. Des mois, ça il faut le dire, hein, des mois. Moi, au centre, par exemple, c'est vrai qu'avant ça, je ne faisais pas de grands chiffres d'affaires, mais j'étais pratiquement à zéro. Voilà, j'étais pratiquement à zéro, il n'y avait pas de visite, il n'y avait pas... Bon, Le chiffre d'affaires était pratiquement nul.
J'avoue que ça revient lentement. On a perdu beaucoup de temps. C'est revenu qu'à la rentrée. Ça veut dire qu'on a eu plus de 6 mois où vraiment c'était... Et aujourd'hui, on ne va pas dire... Oui, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai du monde. Samedi dernier, j'ai du monde. Mais le samedi d'avant, j'avais 4 personnes. Le samedi d'avant, j'avais 3 personnes. Il n'y avait rien.
Madame Pouvoir, il y a Croquette. Madou, Lorolo, arachide, cacahuète, coco râpé, c'est fini non. Il y a gingembre. Madame Pouvoir aussi, la croquette. Bon, c'est bon.
Sincèrement, après l'attentat, quand nous sommes rentrés sur Abidjan ce soir-là, j'ai plus eu envie de venir le dimanche qui a suivi, même les week-ends. Je pensais toujours à ce qui s'était passé. Donc j'ai mis du temps en fait. Je suis revenu ici, je pense, on était en mars. Et 3 mois après l'attentat, en juin, juillet, c'est là que je suis revenu. J'ai fait une confidence. Et tout à l'heure, on a vu des gens au Boubou là-bas. On est revenu, l'image est revenue dans notre tête. Donc ça existe toujours, mais on se méfie quand même. C'est pas pour ça aussi on va s'empêcher de venir nous distraire. Nous sommes là.
Sur les plages, les petits vendeurs à la sauvette, les marchands d'arachides ou de boissons remontent péniblement la pente d'une activité qui a dégringolé.
Non, actuellement, ça ne marche pas. Non. Mais comme on est habitué à venir vendre, sinon ça ne marche pas. C'est avant les touristes, ça marchait bien. Maintenant, ça ne marche plus. Beaucoup ont peur de venir. Deux sont sur la plage de Jacquesville, deux sont sur Assini. Bassam, ils ont arrêté d'arriver.
Est-ce que vous avez eu des aides, vous? Il paraît qu'il y avait de l'argent qui a été donné aux hôteliers, aux restaurateurs, aux transporteurs aussi. Vous-même, vous avez eu un peu d'aide?
Ben, moi, j'ai eu de l'aide, mais ce n'est pas ça. J'ai eu que 5 000. En tout cas, j'ai perdu une somme de 150 000. J'ai reçu que 5 000. Bon, les hôteliers, ce que j'ai appris, on dit bon, d'autres ont eu 50 000, d'autres ont eu 25 000. Donc, franchement, on a eu l'aide du président, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Moi, par exemple, j'ai touché 5 000. Les maillots de bain, ils ont touché 10 000. Maintenant, bon, les hôteliers, bon, les petits, tout, eux, ils ont touché 50 000. Mais les grands, maintenant, eux, ils ont touché bon, peut-être dans les millions. C'est comme ça. Ouais, on est là, on tient toujours.
L'État ivoirien, face à l'urgence de la situation et à la désaffection des touristes, a rapidement débloqué une aide de 300 millions de francs CFA, 500 000 euros, répartis entre les hôteliers, les artisans, la mairie et les transporteurs. Bakary Sidibé, secrétaire général adjoint des transporteurs de Grand Bassam.
Ces gestes qui venirent au sein de la mairie nous a un peu soulagés, parce que ça nous a permis de constituer comme un fonds de garantie. Ben, le fonds, bon, la somme n'est pas telle qu'on le souhaitait. Mais ça nous a permis de faire un pas en avant. On n'arrivait même plus à charger 50 voitures à la gare. Alors quand vous faites la déduction selon le machin, vous allez voir qu'il y a eu un manque à gagner. Il fallait reconcentrer nos idées pour qu'une IAS soit conduite par 2 chauffeurs pour pouvoir soutenir leur famille dans ces périodes-là. Donc c'est-à-dire le manque à gagner, on n'en parle même pas.
Ça a été divisé par 2.
Oui, ça a été divisé par 2 par moment avec le chauffeur.
Pour tranquilliser les touristes et les Bassamois, la présence policière visible ou plus discrète a été renforcée, notamment le week-end. Mais le ministère de l'Intérieur, que nous avons sollicité, reste silencieux sur son dispositif. Et le maire de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, est très évasif sur le sujet.
Au départ, c'était une présence physique visible. Mais on avait une présence de force de l'ordre visible. Mais évidemment, ça ne peut pas, je veux dire, continuer, parce que ça peut également donner l'impression qu'on est dans un bunker. Voilà. Donc, cette force, elle existe, mais elle est peut-être plus discrète, peut-être moins visible, mais je peux vous dire qu'elle existe et que Bassam... je ne peux pas rentrer dans les détails. Sans vouloir également dissuader, je veux dire, les touristes, les personnes qui visitent notre ville. Sur le terrain, vous voyez la police municipale qui est là. Bon, c'est pas une police qui est armée, mais qui a été sensibilisée donc à jouer une partition également en appui aux forces conventionnelles. Je veux dire. C'est d'ailleurs le message que nous avons passé. Quand, tout à l'heure, je vous ai dit que sur 2 semaines, nous avons fait des tournées après l'attentat. Dans tous les quartiers de Bassam, dans tous les villages de Bassam. On ne dit pas d'être des mouchards, mais il faut être vigilant. C'est exactement ce que nous avons dit. C'est une question donc de conscience. La vigilance, on l'a dit à nos populations, elle doit être mise effectivement.
Aujourd'hui, un an après cet attentat, le tourisme reprend peu à peu, comme en témoignent Marie-Pierre et Alexandre, deux touristes de Seignos dans le sud-est de la France, et Hervé, venu, lui, comme souvent, avec ses enfants de Daloa, dans l'ouest du pays.
Mais c'est vrai que par rapport aux attentats, il y a un an, on n'a pas eu du tout d'inquiétude. Et c'est vrai qu'en France, on a ce genre d'événements aussi assez récurrents. Donc, on se dit qu'on n'a pas plus de chances d'être soumis ici en Afrique qu'en France, finalement.
On voyage beaucoup, on a été dans des endroits qui ont des réputations plus ou moins dangereuses, ou pas d'ailleurs. Et ici, en fait, on ne sent pas forcément de différence. Enfin, en tout cas, on n'a pas d'appréhension. Il y a juste un peu de vigilance à avoir, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Ouais, on n'est pas parti en se disant qu'il va falloir forcément faire face à des choses très dangereuses et tout ça. Bon.
Non, pour moi, c'est des histoires purement passées. Hein. Je n'ai vraiment aucune crainte, aucune appréhension. Je viens juste pour prendre du temps avec les enfants, c'est tout.
Il y a un an, quand c'est arrivé, vous étiez donc à Daloa. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'était quand même c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire de la Côte d'Ivoire?
Oui, c'était plus que déplorable. Hein. C'était vraiment... On n'a pas de mots pour pouvoir décrire ça. C'était pratiquement dans l'inimaginable de la Côte d'Ivoire. Mais que voulez-vous, c'est arrivé. On prie Dieu que cela ne se répète vraiment plus. Moi, personnellement, mes enfants, ils viennent quand ils peuvent. Vraiment, je n'ai aucune appréhension par rapport à ça. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, même de nulle part, cela peut arriver.
À quelques mètres de la plage où il a échappé à la mort, Youssouf attend désormais le retour des touristes dans son atelier.
Ben, c'est ça, c'est, oui, bizarre, c'est choquant. Ben, on aimerait raconter des belles histoires, pas raconter des histoires dramatiques, mais bon, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. L'important, c'est de dépasser ça et puis être fort et puis essayer de vivre, quoi. Il faut vivre. Voilà, on constate maintenant que c'est pas chez nous seulement, c'est partout. Donc il faut tenir, puis vivre, et puis ben, voilà, faire comme s'il n'existe pas, mais tout en prenant des précautions.
Grand Bassam, le réveil après le cauchemar, un grand reportage de Frédéric Gara.
jamais l'éléphant ne cède aux armes qui grondent.